Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Notre invité est comédien. Oui, comédien. Je sais qu'en voyant son visage, vous vous dites autre chose. Peut-être qu'il est un ancien footballeur, peut-être même un des champions du monde 98. Et vous avez raison, il l'est aussi. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, et depuis 15 ans, il joue au théâtre. Il est sur scène des dizaines de fois chaque année. L'intrus, l'arnaqueur, drôle de campagne, hernie fiscale. Notre invité s'est offert une deuxième vie. Riche, drôle, collective. Faite de rencontres, de rires, de troupes, d'obstacles aussi. Car il le sait, il le sent. Son virage en a dérangé quelques-uns. Qu'est-ce qu'un sportif viendrait faire dans le monde du spectacle? Certains pensent qu'ils ont le sang royal du théâtre et que je leur pique leur place, dit-il. Mais sa place, il a travaillé dur pour la trouver et la gagner, à chaque étape de sa vie. Dans le foot comme dans la comédie, rien n'a été simple. Est-ce que ce qui le caractérise, finalement, c'est sa ténacité, sa détermination, sa capacité à s'imposer là où on ne l'attend pas? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard. Bienvenue Franck Leboeuf et merci d'avoir accepté notre invitation au Dôme Tournant, ici au Sénat. Encore un lieu où on ne vous attend pas d'ailleurs. Est-ce que vous aimez bien mettre le pied dans la porte, surtout dans la porte qui vous résiste? Est-ce que vous êtes tenace? Est-ce que ça vous caractérise?
Je crois fortement en moi et je m'autorise toutes les possibilités. Et je ne comprends pas qu'on m'empêche de réaliser mes rêves. Donc je vais à fond, je respecte tout le monde. Je ne fais pas d'enfant dans le dos, comme on dit. Je respecte tout le monde, mais je tiens à ce qu'on me respecte aussi. Et à partir du moment où on ne me respecte pas, ma force est décuplée. Et donc, ça devient difficile pour l'adversaire. Je n'ai jamais eu pensé que j'avais un don spécial pour quoi que ce soit. Mais je crois tellement en moi que je m'autorise à penser à l'impossible pour certains, au fantasme pour d'autres. Pour moi, ce n'est qu'une réalité.
Pourtant, quand on force un peu le destin, on peut se dire qu'on est parfois atteint du syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive, notamment dans le théâtre?
Oui, oui, ça m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai accepté ma première pièce de théâtre qui s'appelait L'Intrus. Parce que en 98, je ne dois pas faire la finale de la Coupe du Monde. Laurent Blanc est expulsé et je joue à sa place. Et voilà, ça a posé peut-être des problèmes à certains. Moi, ça m'a fait rire parce que le matin même du match, ma mère m'avait appelé et elle m'a demandé si je jouais. J'ai dit non, moi, je ne joue que les finales, tu sais. Et donc voilà, je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes, mais moi, c'est ma façon de penser. Ouais. Cette façon un peu peut-être américaine de croire qu'on a le droit de faire plusieurs choses dans sa vie et pas qu'une seule chose. Et c'est ce que je fais et parce que j'ai envie d'avoir une vie pleine, parce que je sais qu'un jour, elle va s'arrêter.
C'est intéressant que vous parliez de la méthode américaine parce que le métier de comédien, vous ne l'avez pas du tout volé. Vous vous êtes formé et très sérieusement à Los Angeles, aux États-Unis, 1 an et demi, 4 heures par jour, je crois. Ça aurait été impossible de la faire en France, cette formation?
Elle aurait été un petit peu tronquée par le fait que les gens m'auraient reconnu, alors où j'aurais été plutôt critiqué, pas aidé, ou alors au contraire favorisé. Et je voulais pas ça. Et puis j'avais envie de partir aller encore à l'étranger, d'aller à Los Angeles où j'avais jamais mis les pieds et voir comment ça pouvait fonctionner. Et voilà, c'est vrai que j'ai fait l'East Strasbourg Institute, qui est une branche d'Actors Studio. Et puis ça a bien fonctionné. J'étais content de le faire. J'ai beaucoup bossé. Et c'est vrai que quand vous rentrez, que vous faites une pièce de théâtre, vous entendez les gens, mais qu'est-ce qu'il fait lui après le foot, le théâtre, mais il se prend pour qui? J'ai travaillé comme toi, j'ai pris des cours, et puis maintenant je m'essaie, j'ai été vert, comme on dit, et puis je le sais moins, parce que maintenant ça fait 1400 fois, 1500 fois que je suis au théâtre, ouais. Donc j'ai joué deux fois plus au théâtre qu'au foot.
Mais vous parlez souvent des critiques, et vous dites même que vous avez perdu des amis, des gens qui vous ont évité. De quel univers c'est venu le plus? Du monde du football ou du monde de la comédie?
Non, du monde de la comédie, du monde du cinéma. Je connaissais des metteurs en scène, des réalisateurs qui étaient à qui j'ai J'ai ouvert les portes du foot même, hein. Je les ai fait rentrer dans les vestiaires de l'équipe de France, je les ai invités, donc je ne vais pas le nommer parce que ça lui ferait trop
de pub. Ah, vous pensez à quelqu'un en particulier ?
Oui, bien sûr, quelqu'un de très connu en plus. Et dès que qu'il a appris que j'étais acteur, ben, un jour je l'ai vu, et il m'a retourné, il a fait « Ah, salut !» J'ai dit, tu te fous de ma gueule, toi, quoi. Ça va pas, quoi. Mmh. Et donc, voilà. Mais j'ai découvert ça. Et puis après, des gens du théâtre. Mais les gens du théâtre, c'est plutôt ceux qui ne jouent jamais, qui vous disent que vous n'avez rien à faire
dans
ici.
Dans le monde du foot, non? Pas de
non,
jugement.
Non, au contraire. Moi, j'ai Bichente Lizarazu qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'un jour, quand je lui ai dit que je commençais à faire du théâtre, que je prenais des cours, il y croyait pas, en fait. Mmh. Et un jour, il a vu une affiche de moi dans Paris. Il m'a dit, mais il a vraiment fait ce con. Voilà, c'était mignon. Ouais. Et il me l'a dit. J'ai quelques-uns qui sont venus. Bichente est venu me voir jouer. Laurent Blanc est venu me voir aussi. Mmh. Il y a très peu de temps,
Jérôme. Ils sont plutôt solidaires, alors.
Ouais, non, ils sont contents. Ils sont contents. Et puis surtout, ils savent que je me prends pas la tête, que c'est vraiment une passion et que, voilà, je le fais avec la plus grande légitimité, je pense aussi.
Le fait que vous soyez un ancien footballeur a même été plutôt vu comme un atout par Halil Vardar, auteur et metteur en scène de Hernie Fiscal. Je le cite, « Les sportifs, contrairement aux comédiens français, dit-il, sont formés dans la douleur. Franck bosse comme un dingue. Il y a des comédiens qui n'écoutent rien, lui écoute tout. Parfois ça le gonfle, mais il écoute. Est-ce que le fait d'avoir été footballeur vous donne une discipline et même une humilité que les comédiens qui ont un parcours classique n'ont pas, pensez-vous ?
Mais complètement. J'ai même produit, écrit une pièce, mis en scène des pièces. La hiérarchie, elle est difficile à imposer. Un comédien pense qu'il passe devant tout le monde. Alors qu'un joueur de foot, alors en tout cas à notre époque, maintenant c'est peut-être un peu plus difficile, mais à notre époque, moi, mon entraîneur, même si je trouvais qu'il était bête, s'il me disait « allez, va faire 3 tours de terrain », j'allais faire 3 tours de terrain parce que c'était mon boss et que j'avais rien à dire. Et nous, on venait pas pleurer au président parce que le président, il venait nous voir, on n'était pas content, tu vas voir l'entraîneur. Et donc voilà, l'histoire, elle était finie. J'ai découvert la discipline, la hiérarchie, un petit peu comme ça se passe dans l'armée. Mmh. Et donc j'accepte ça. Et l'effort, il vient de là. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on est tributaire des choix d'un entraîneur. Et si vous n'êtes pas bon, vous dégagez. Et si vous faites 2-3 mauvais matchs, vous partez. Au théâtre, il y a des gens qui se pensent croient tout permis parce que ils ont été pris par un metteur en scène ou par un producteur. Mmh. Et on sait que c'est que des choses de copains, des... On ne va pas parler des Molières ni des Césars, et on peut même aller jusqu'aux Oscars pour voir que c'est une bonne équipe de copains qui se congratulent chaque année. Je l'ai vu, je le sais, tout le monde en parle. Et pour faire des meilleures ventes, on s'envoie les Molières comme on s'enverrait des bouquets de fleurs.
Mmh. Sur les points communs et les différences entre le foot et le théâtre, ce que vous dites est intéressant. Il y a ce côté one shot. Au théâtre comme au foot, quand on rentre sur le terrain, on ne peut pas refaire une prise si elle n'est pas bonne. En revanche, au foot, quand on rentre sur le terrain, on n'a pas de texte et on ne sait pas ce qu'il va se passer. Si on devait comparer le plaisir pris quand on est joueur de foot et le plaisir pris lorsqu'on est sur scène, lequel est le plus fort ?
Il n'y a aucune comparaison avec le sport. Le sport a cette incertitude, cette dualité qui fait que vous vous retrouvez pas tout seul sur scène. Mmh. Si on compare et on fait une analogie avec le théâtre, avec quelqu'un qui veut vous battre. Dans les tribunes, il y a la moitié, si vous jouez à l'extérieur, on va dire 90% des gens qui vous haïssent.
Oui, c'est
ce qui n'est pas vraiment en principe le cas dans une salle de spectacle. Mmh. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire. Au théâtre, on la connaît. Maintenant, je trouve qu'il y a des petits rapprochements. Mmh. On joue avec ses coéquipiers, je faisais un sport collectif. Au théâtre, je trouve que jouer le clown blanc, bien lancer sa phrase pour que l'Auguste fasse rire, c'est jouissif, comme une passe décisive ou un buteur. Et ça je retrouve ça dans le sport et entre le sport et le théâtre. À part ça, non, ce que j'ai connu en foot était tellement intense, trop intense peut-être. À la fin, on n'en peut plus.
Le plus intimidant, ce sont les 80 000 spectateurs du Stade de France ou les quelques centaines de la Comédie Saint-Martin ?
Alors maintenant, ça va mieux. J'avoue que mes premières fois, je préférais jouer devant 90 000 personnes que devant les 300 personnes que j'avais devant moi.
C'est dingue.
Parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce qu'on est, comme je l'expliquais tout à l'heure, vert. Mmh. Et on débute. Mais maintenant, moi, je suis heureux. Je suis heureux, on fait plein tous les soirs. Et il y a une interaction avec le public qu'on ressent. Hier, il y a des gens qui sont arrivés en retard. Hier soir, il y a des gens qui sont arrivés en retard. À un moment donné, je leur parle et je vois les gens qui arrivent, ceux qui étaient en retard, qui arrivent. Et vous avez le public qui est retourné, qui vous écoute plus et qui regarde les gens qui rentrent. Oui. Et vous vivez ça en direct. Et comment, qu'est-ce que je fais? J'arrête, j'attends, je fais la pause, j'attends que les gens
se soient...
Et tout ça, ça fait partie du jeu et de l'expérience qu'on va acquérir au fil des années. Je trouve ça extraordinaire. Travailler sur la psychologie des gens, faire rire des gens, c'est une finesse technique extraordinaire, parce que une phrase dite entière va peut-être pas faire rire, si vous la coupez en deux, elle fera rire. Et ça, nous, c'est ça. On est vraiment très piqué, très précis, très on essaie des choses tous les jours. Pour être heureux, on est payé au rire au théâtre.
Je disais que vous étiez tenace, un exemple flagrant quand même pour votre première pièce. Vous en parliez tout à l'heure de l'intrus. Vous arrivez de Los Angeles et on vous dit le producteur est parti, le metteur en scène aussi, il n'y a plus personne. Et là, vous décidez de reprendre le projet sur vos deniers personnels. Vous produisez vous-même la pièce, 40 représentations. Vous perdez au passage 35 000 euros, je crois, quand même, dans l'histoire. Mais ça y est, vous êtes comédien à Paris.
Ouais, bah il faut payer et quelquefois il faut y aller et puis se dire ouais. Alors on avait fait quelques petites promos aussi, donc c'était difficile pour moi d'avoir mis mon nom en avant et puis de pas le faire. Et donc c'est vrai que quand tout le monde est parti, j'ai dit allez, on y va
et même ce côté fonceur qui revient tout le temps.
Ouais, mais je crois encore une fois en mon destin. Je crois qu'il faut passer par des époques des moments difficiles pour pouvoir réussir. Comment apprécier la vie si on souffre pas? Si on veut avoir que du... Moi, je dis le gosse de riche qui a jamais rien fait et à qui on offre une Porsche à 18 ans, un appartement à 20, qu'on file du pognon tous les mois. Ouais. Quelle est sa fierté? Quel est le plaisir? Comment il peut apprécier ces bons moments? Moi, j'ai souffert. J'ai rien gagné à ma vie. J'étais à 800 km de mes parents à 18 ans. Je me suis fait tout seul. Je peux dire merci à la terre entière, mais aussi à personne. Et c'est ça qui fait ma force. Et j'apprécie les petits moments, parce que j'ai souffert.
Au fond, on a l'impression que vous avez toujours eu envie d'être acteur. Quand vous avez 4-5 ans, vous regardez avec votre mère au théâtre ce soir, émission de télévision qui diffuse des pièces de théâtre. Vous y découvrez Georges Belair, qui deviendra votre ami, Jacqueline Maillan, on en parlait, et des dizaines d'autres comédiens qui vous font rêver. C'est a priori là que naît votre envie de devenir comédien. Et en fait, vous avez eu envie de devenir comédien avant même de devenir footballeur?
Oui, parce que footballeur, pour moi, c'était pas un métier. On jouait au foot, je jouais tous les samedis et tout le monde le faisait. Donc ça faisait partie de... Et il y avait une élite, mais je pensais pas que c'était un métier.
Vous pouviez en faire partie.
Oui. Alors que comédien, acteur, c'était à Paris. Il fallait faire déjà l'effort d'aller à Paris. Il fallait travailler. On sentait que, comme à l'école, on apprenait des textes. Donc c'était pour moi tout de suite un métier. Et puis surtout, c'était qu'est-ce qui se passe derrière la scène? Moi, je voyais cette scène-là. Je voyais, comme disait Georges Belair, Jacqueline Maillan, tous ces marins. Enfin voilà. Préjean, c'était mes idoles. Moi, quand Belair, j'ai joué avec lui. Georges, je lui ai dit, t'es mon Platini des planches. Et c'était vraiment ça. Et moi, je rêvais en regardant ces gens-là jouer dans ces beaux appartements parisiens avec ces beaux décors derrière. Et je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on nous racontait une histoire en 1h30, 2h. Et je trouvais ça magique.
À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie?
Encore une fois, crois en toi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Y croire pour soi, parce que je pense qu'on est tous des gens exceptionnels. Maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'exceptionnel? Moi, j'ai toujours dit à mon fils, on n'est pas là pour être connu, pour gagner de l'argent, on est là pour faire ce qu'on aime. Si tu veux être, tu veux réparer des petites chaises avec de la paille ou des choses comme ça dans un petit coin de Dordogne ou j'en sais rien, si t'as envie que ça te plaît, fais-le. Parce que c'est ce que t'auras envie de faire dans ta vie. Il faut faire des choses avec passion. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dur toute leur vie pour juste attendre le week-end ou après attendre leur retraite. J'ai discuté avec quelqu'un qui disait qu'il avait fait un métier pendant 50 ans qu'il n'aimait pas. Et j'étais avec un jeune de 19 ans. J'ai dit voilà, c'est tout ça qu'il faut éviter. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie. Même si je suis bouddhiste et que je crois en la réincarnation, je me dis cet homme-là, il a gâché 75% de sa vie. C'est terrible.
Le foot arrive très tôt dans votre vie à vous. Vos parents ont une entreprise de plomberie chauffage, mais votre père a aussi une activité d'entraîneur de foot pour les jeunes de Saint-Cyr-sur-Mer, commune de 12 000 habitants dans le Var, et votre père vous entraîne. Protecteur et un peu dur, je crois, parfois, surtout quand vous perdez, vous en entendez parler pendant 48 heures de la défaite. Vous dites même, il a fallu que je gagne la Coupe du Monde pour qu'il me dise qu'il était très fier de moi. Cette exigence paternelle, elle vous a apporté quoi? Elle vous a construit ou elle vous a aussi un peu déstabilisé, voire
Elle a tout fait. Ouais. En fait, je suis devenu champion du monde parce que mon père a été très dur avec moi. J'ai discuté avec Thierry Henry. Je vois d'autres enfants qui, des anciens, des joueurs de foot, qui expliquent leur enfance. Malheureusement, on passe par ça. C'est terrible. C'est terrible parce que il y a pas le choix. Si on vous gâte, si on vous dit que vous êtes le meilleur, eh ben vous allez vous asseoir sur vos lauriers. Mais si on vous rentre dedans, vous allez peut-être par votre personnalité arriver à montrer le contraire de ce que votre père décrit de votre personnalité.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de ces parents qui poussent aujourd'hui leur fils essentiellement à faire du foot non-stop pour devenir le futur Kylian Mbappé? Parce que c'est un phénomène qui est en train de...
Alors, il y a deux choses qu'il faut séparer. Il y a le père qui fait ça parce qu'il veut que son enfant soit un produit marketing et gagne de l'argent. Moi, mon père l'a pas fait ça. Mon père l'a fait ça parce qu'il aimait le football, parce qu'il voulait que je devienne footballeur, parce que sans doute il voulait vivre une vie par procuration, mais pas pour l'argent, pas pour le business.
D'accord.
Maintenant, on voit beaucoup de parents qui créent un gosse parce que ça permet de faire vivre toute la famille. Ce que je peux comprendre, mais pour moi, c'est terrible, parce que les répercussions d'un enfant qui va pas réussir à faire ça, elles sont terribles. Elles sont, mais même catastrophiques. Moi, j'ai mes démons aussi. Mon papa est parti il y a 20 ans. J'en ai beaucoup voulu quand il est parti, parce que j'avais énormément de reproches à lui faire. Mais j'ai été champion du monde grâce à mon père, parce que grâce à la mentalité qui m'a inculquée. Mais encore une fois, je suis tout à fait contre cette façon de
vous n'avez pas reproduit.
Non, bien sûr, je pouvais pas. Je pouvais pas parce que c'était trop dur. C'est trop dur, comme vous disiez, quand je disais à mes copains, bah, vous, on a perdu, vous rentrez chez vous, c'est fini. Moi, mon père, il va m'en mettre la tête comme ça pendant 2 jours. Il en a voulu à mes frères, il a fait des choses à mes frères parce que, soi-disant, il portait ombrage à ma carrière, enfin, des choses comme ça que j'ai appris après, parce que c'était tout pour Franck, mais tout contre Franck, parce que si Franck faisait pas quelque chose qui... Mon père a été un monstre, et en même temps, il a été mon héros. C'est terrible d'en parler comme ça 20 ans après. Et je pleure quelquefois depuis avoir mon père, mais je lui en ai voulu, mais très très fortement aussi, de m'avoir construit comme ça, parce que j'emmerde tout le monde aussi. J'emmerde mes parents, j'emmerde ma mère, j'emmerde ma femme, j'emmerde mes enfants, pardon d'être grossier, parce que je suis un perfectionniste, parce qu'on m'a construit comme ça.
J'ai un document à vous proposer qui a été délivré, transmis par nos partenaires dans cette émission, ce sont les Archives Nationales. C'est une photo. Alors, j'avoue qu'on a été tenté quand même par la photo du jour où vous remportez avec l'équipe de France la Coupe du Monde de foot 98, 12 juillet, Stade de France. En dehors de vos coéquipiers, là, dans ce vestiaire, vous êtes entouré du président Chirac, du Premier ministre Lionel Jospin, il y a également Michel Platini, Noël Le Graët, ancien président de la Fédération Française de Foot. Vous saviez que Chirac et Jospin avaient pris 15 points et 10 points dans les sondages grâce à vous?
Oui, je sais. Moi, je les ai adorés. Je les ai adorés. Jospin, parce qu'il connaît le football. Et Chirac, parce qu'il ne connaissait rien au football. Et c'était extraordinaire. Ouais. Moi, j'ai des photos avec ces deux personnalités comme si c'était des potes. C'était extraordinaire. On avait porte ouverte à l'Élysée, on a même été à l'Assemblée nationale. Ouais. Merci de m'inviter au Sénat, parce que c'est la première fois que je viens. Mais on a découvert une autre vie. On a fait plaisir aux Français. Et moi, j'ai toujours dit, sans les Français, on n'aurait jamais gagné. Parce qu'au début de la Coupe du Monde, c'était bon, une équipe moyenne, elle ne joue pas bien, on ne va pas y arriver. Enfin voilà, on s'était fait détruire un peu par les médias. Et les gens, au fur et à mesure, ont commencé à croire en nous. Et ça a été vraiment extraordinaire de voir cette osmose avec tous ces Français.
Il y a eu aussi une forme de politisation de votre équipe et de cette victoire, France Black Blanc Beurre, à partir de ce moment-là, on en a beaucoup parlé. Est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que ça a parasité les relations entre vous? Ou pas du tout? Vous avez été fiers de ça?
Non, ça a été un problème pour moi, pour ma philosophie de vie, parce D'accord. que j'aime pas qu'on se serve de moi pour vendre ses idées. Et je trouvais que, Black Bamber ne ressemblait à rien. 2 mois après, les gens avaient toujours les mêmes problèmes et on avait rien réglé. On a fait un match de foot, on a fait une compétition, on l'a gagné, on a rendu des gens fiers. Mais j'ai pas aimé, surtout que 4 ans après, quand ça se passe mal, les mêmes personnes nous détruisent. Et c'est là qu'on s'aperçoit que on n'a pas fait grand-chose non plus d'extraordinaire. Moi, j'ai aimé ce que j'ai fait. Je suis très très fier de moi. Tous les jours, on me parle de 98.
Mais oui.
Mais il y a une vie d'homme plus importante qu'une vie de footballeur. Et les récupérations politiques m'ont toujours déplu. Quand je vois en ce moment, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, je vois que des athlètes sont obligés de se mettre sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire cette compétition. Et qu'en même temps, on leur dit qu'ils ont intérêt à rapporter des médailles parce que sinon, ils vont être la honte de la France. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? La France n'a pas compris que les sportifs... pouvaient amener tellement de belles choses à leur pays, mais on ne les aide pas.
Vous trouvez qu'Emmanuel Macron fait pression sur les sportifs?
Il l'a fait, il l'a fait clairement. Il l'a fait à un moment donné où il a demandé à tous ses sportifs de gagner, et c'était pendant les Jeux Olympiques, je crois, de gagner plus de médailles. Mais donnons-leur les moyens de faire ça. Nous, au football, on les a, les moyens. Ils sont plutôt privés. Ils sont privés.
Et en athlétisme,
mais en athlétisme, c'est une catastrophe.
Si on revient au football, vous n'étiez pas prévu en finale, hein, vous l'avez
oui.
dit. Vous jouez parce que Laurent Blanc est suspendu. La presse est très dure à ce moment-là. Elle laisse entendre que si la France perd, ce sera à cause de vous. Quand vous êtes dans le couloir qui vous mène au terrain, vous dites que vous avez eu envie de fuir, de disparaître même. Vous étiez à 180 pulsations minutes en arrivant sur le terrain. J'ai lu ça, vous allez peut-être me le confirmer.
Alors en fait, l'histoire des 180 pulsations, c'est en sortant du bus, c'est encore pire.
En sortant du bus.
Un bus, c'est en rentrant dans le vestiaire. J'ai dit, il faut que tu te calmes, hein, parce que sinon tu ne vas pas y arriver. Là. Si tu es à 2 heures du match, si tu es à 180 pulsations. Et en fait, tu rentres dans le vestiaire, c'était fini. C'était petit Franck qui préparait son match à Saint-Cyr-sur-Mer et qui allait jouer. Mmh. Je suis rentré dans le vestiaire, je me suis changé, et puis l'ambiance la connaît. Puis
les joueurs vous rassuraient ou pas?
Non, on ne s'est pas parlé.
Vous êtes pas
Non, on ne se parle pas. On se parle pas parce que. On sait qu'on joue le match de notre vie, on n'a pas besoin de se parler, on sait que les autres sont forts, ils vont être là, ils vont vous aider, et vous, moi, je me dis, je suis pas prévu. J'apprendrai après que certains joueurs étaient, ça allait, ils étaient tous même très contents que je sois là, c'était pas un problème pour eux. Et ce jour-là, j'ai vécu des choses extraordinaires tout en me disant, oui, comme je l'ai expliqué, mais je préférerais être tout seul dans la forêt tranquille, mais laissez-moi tranquille, quoi.
Et fuir un trou de souris, quoi.
Je dis, c'est la plus belle journée de ma vie, c'est la pire journée de ma vie, et c'est la plus belle soirée de ma vie.
Ouais. Et l'équipe de France d'aujourd'hui, vous en pensez quoi? Vous les voyez aller jusqu'où?
Je leur souhaite le meilleur. Le football de maintenant m'intéresse de moins en moins. Je travaille pour une chaîne américaine où on parle de football, l'équipe de France, Paris Saint-Germain, la Première Ligue, la Ligue 1, tout ça. J'aime pas cette mentalité, j'aime pas ce football non plus.
D'accord.
Ce football trop pensé, trop tactique, qui devient un peu du basket américain ou du football américain. Voilà. Moi, j'aime le football instinctif, le football anglais qui allait vers l'avant. J'aime pas le football horizontal, je veux pas être trop technique, mais le football vertical. J'aime que ça aille vite, qu'il y ait des contacts, c'est un sport de contact. Et là, je me reconnais plus dans la façon de penser des joueurs, ça s'individualise de plus en plus. Le Ballon d'Or est devenu quelque chose d'incontournable. Alors que nous, quand Zizou, il a gagné le Ballon d'Or, il a dit bravo Zizou, allez hop, on va s'entraîner, c'est fini.
Chose,
mais on s'en foutait. Ouais. C'était pas important. Et maintenant, c'est le Graal pour les joueurs. Ouais. On en parle pour les médias.
Mais aussi à cause ou grâce à vous, grâce à cette Coupe du Monde 98. C'est-à-dire que forcément, votre équipe et cette victoire en 98, elle a révolutionné le football français.
Oui, mais nous, à l'inverse de ce qu'on entend. Et tout le monde est d'accord pour le dire, c'était une équipe. Il y avait Zizou, bien sûr, il y avait Barthez, il y avait Deschamps, il y avait Desailly, il y avait des grands joueurs, Djorkaeff, tout ça, Blanc. Mais il y avait une équipe, il y avait des potes, il y avait des mecs qui étaient contents de jouer avec eux, qui encore se voient 30 ans après, font encore des trucs ensemble. Je trouve ça extraordinaire. On se voit une fois par an où on fait une bouffe ensemble. Ce sont des potes qui ont joué ensemble pour un pays et qui n'ont rien calculé. C'est ça qui était génial.
J'ai des photos à vous proposer, Franck Leboeuf. La première, la voici. Il s'agit de Thierry Henry qui a récemment confié les différents épisodes dépressifs qu'il a vécu. Quand j'entends les gens parler de dépression, ça fait tilt chez moi. Tout au long de ma carrière, j'ai dû être en dépression. Est-ce que je le savais? Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose à ce sujet? Absolument pas. Mais je me suis adaptée. C'est ce qu'il dit dans une émission anglaise. D'abord, est-ce que vous le saviez? Et est-ce que vous vous êtes un peu reconnu dans ce qu'il a dit?
Je me suis reconnu dans le fait qu'il ait parlé de son père, lui aussi, et de la dureté de l'éducation qu'il a reçue et qui lui a permis, en même temps, il l'a avoué, d'être qui il est. Et donc, je me suis bien sûr reconnu, parce que j'ai connu la même chose.
Des épisodes dépressifs
aussi. Les épisodes dépressifs, j'ai connu ça aussi, après ma carrière, parce que moi, je perds mon père, je divorce, j'arrête ma carrière, je pars à Los Angeles où je connais personne. Donc, le seul endroit où j'étais bien, c'était dans mon lit. Et bien sûr, j'ai connu ça. Et on a beau avoir tout ce qu'on veut, quand ça vous tombe dessus...
Mais vous en parliez? Vous en avez parlé entre vous?
J'en ai parlé après. Non, j'en ai parlé après. Mais je crois que c'est 65% des sportifs de haut niveau qui tombent en dépression après leur carrière. Mais c'est normal, l'intensité, ce que ça demande, encore une fois, on parle de discipline. Après, il n'y a plus rien. Après, il faut retrouver quelque chose, il faut essayer de se préparer.
Quelque chose qui procure autant d'adrénaline et de...
Mais l'aspect psychologique n'est pas encore assez développé, je trouve, dans le sport de haut niveau, même dans le football, même s'il y a des gens qui s'en occupent. Je pense qu'il faut, il faut vraiment s'y attacher.
Une autre photo, il s'agit de Rachida Dati, nommée ministre de la Culture, une annonce qui a fait grand bruit dans le monde de la culture. Elle a elle-même dénoncé un mépris de classe. Est-ce que vous pensez que c'est un peu le cas ?
Je pense qu'il y a des gens qui vraiment pensent que le théâtre ou le cinéma leur appartient et que, comme je disais, dans le sang royal de ces deux disciplines, ces gens-là n'ont aucun respect pour les gens qui arrivent. Ils ont fait des spectacles aussi où ils étaient aidés par des subventions. Donc la qualité du spectacle importait peu parce qu'on prenait le pognon et on s'en foutait.
Alors qu'est-ce que vous lui dites à Rachida Dati ? Qu'est-ce que vous lui conseillez ?
Faut y aller, sincèrement. Il va falloir nettoyer. Je vais être poli. Il va falloir regarder un petit peu dans tous les coins ce qui se passe, parce que sincèrement, moi j'ai découvert des choses et je trouve ça pas beau.
Une dernière photo. Il s'agit de la chanteuse Lio qui a confié son expérience de femme battue. Son ex-compagnon la frappait régulièrement, même quand elle a été enceinte de lui. Plus généralement, évidemment, elle dénonce les violences sexistes et sexuelles qui s'imposent aussi dans certains milieux, notamment dans le spectacle et le cinéma. Vous êtes le parrain d'une association contre les violences faites aux femmes, elles imaginent. C'est ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai une maman, j'ai une femme et j'ai une fille. Et je ne supporterai pas que mon beau-fils tape ma fille. Je ne comprends pas qu'un homme puisse frapper une femme. C'est une force de faiblesse extraordinaire. Quand on pense que quelqu'un vous appartient, qu'il est acquis, c'est que vous n'avez rien compris. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est... Il faut le prouver, l'amour. Il faut tous les jours travailler pour que ça puisse continuer. Moi, si mon épouse considérait que je lui appartiens, je suis un verso ascendant verso, c'est au revoir tout de suite. C'est ça. Et pareil, du même côté, avec tout le respect qu'on doit à chaque être humain, en fait. Encore une fois, respectons-nous.
J'ai une dernière question en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. La sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ?
J'adore les gens qui sont éloquents, mais je trouve qu'il faut faire attention parce que l'éloquence peut permettre de dire des choses et on a souvent trouvé des gens qui étaient éloquents mais qui disaient des choses terribles.
Prudence et sagesse.
Faire attention à la prudence, parce que quand on est trop prudent, on tente rien.
Il n'y en a aucune qui vous plaît. Alors.
Non, j'aime la sagesse.
La sagesse.
Mais un petit grain de folie, c'est quand même sympa. Mais la sagesse, ouais, elle me plaît. Je suis content d'être là.
Et ben on s'arrêtera sur ce mot, alors la sagesse. Merci infiniment, merci. Franck Leboeuf, d'avoir été avec nous dans ce beau rendez-vous. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat. Merci.